Une autre mauvaise journée en bourse, Pierre-Yves.
Ben oui, l'Arabie Saoudite dit on va commencer à contourner notre pétrole. Il y a la distinction Chine-États-Unis, la chicane qui continue et l'espèce de jovialisme habituel de mi-mandat qui est passé. Alors on dit ok, on va prendre le jour du souvenir pour fermer un peu nos positions au niveau de la bourse. Donc Amazon a perdu plus que 4%, Apple 5, Netflix 3, Alphabet 2.6 et Facebook avec le petit problème de ce matin se retrouve avec une perte totale sur un an de 20,5% et 5,6% sur 5 jours. Alors, tu vois un peu tout ce qui se passe au niveau de la bourse, c'est tout le temps la même histoire. Si on n'a pas une stratégie à long terme en adéquation avec notre gestion de risque, notre capacité à prendre du recul, ça va pas bien. Mais si vous regardez vos placements quand même, depuis le début de l'année, c'est revenu, tu sais, oui, il y a eu l'embolie, la grande montée d'à peu près septembre au niveau du Nasdaq, où on a franchi les 8000 points, mais on est quand même, depuis le début de l'année, à 4% sur le Nasdaq, tu sais. Donc, oui, il y a eu de la volatilité, oui, les titres technologiques ont payé le prix, mais au total, quand on regarde l'année, on n'est pas en train de perdre du rendement ou du capital, on est en train de perdre du capital qu'on investit peut-être au cours de l'année, mais pas sur notre placement depuis 5 ans.
La différence entre le financement participatif ou encore le socio-financement.
Oui, et ça, c'est une distinction, Paul, qui n'est pas assez faite dans les médias. Le socio-financement, c'est quand quelqu'un vous dit « Bonjour, je fais pitié, j'ai besoin d'aide, voulez-vous me payer quelque chose? »
GoFundMe.
Oui, tu sais, finance-moi quelque chose parce que il m'est arrivé quelque chose de grave, on est un OBNL, on est un organisme de charité, on a besoin d'aide, on veut s'acheter des équipements, aidez-nous. Le financement participatif, c'est un nouveau mode de financement parce qu'il faut comprendre que lorsque vous êtes entrepreneur, quand vous avez en bas, là, je dirais, là, 250 000 $ de prêt, Investissement Québec ou même les caisses vous voient comme un petit micro-crédit. T'sais. Et quand on voit comme un micro-crédit, vous générez des coûts de gestion de dossiers quand même aussi élevés qu'un plus gros paiement et vous êtes moins rentable. Donc, on est moins intéressé à vous. En plus, quand vous êtes en départ, ben vous êtes un peu risqué. Donc, ce qu'on dit, c'est je vais aller vous socio-financer. Donc, qu'est-ce que font les gens? Vous financez de façon participative. Donc, comment qu'on marche? C'est que vous dites, OK, moi, j'ai inventé une sorte de sac à dos. Mais pour pouvoir faire ça, j'ai besoin de 30 000 de gens qui s'engagent à acheter d'avance le sac à dos. Donc, mettons, il vaut 100 $ Vous payez 100 $ et lorsque j'ai levé mon 30 000, par exemple, je vais prendre votre 30 000 $ au moment où j'atteins mon objectif et je vais commencer à fabriquer mon sac à dos, le mettre en marché et vous envoyer votre copie du sac à dos. Il y en a qui disent, oh, voilà qui est révolutionnaire, voilà qui change la vie de plein de monde. Attention! Les humoristes, ça fait longtemps qu'ils font ça. Ils te vendent tu achètes un billet pour tes parents à Noël, tu sais, pour un spectacle d'humoriste, mais c'est presque pour l'année suivante. Donc, c'est une façon, c'est un genre de financement participatif. L'humoriste dit, je vends mes salles d'avance, s'il y a un problème, je vous rembourse. C'est une forme de financement participatif, les spectacles. Vous payez avant que le risque soit pris. Oui, des fois, il y a des engagements de salle. Oui, il y a des prix, puis oui, mais au niveau total, vous payez d'avance un bien que vous allez consommer loin dans le temps.
Oui.
Alors, c'est un peu ça.
On va parler maintenant de la meilleure stratégie fiscale. On pourrait résumer en disant petit salaire, gros actifs nets. Voilà une belle combinaison.
Comment faire ça? Et c'est ça la question, parce qu'le gouvernement nous dit, vous êtes riche quand vous avez un gros salaire. Mais quand vous avez un gros actif, on vous taxe pas vraiment comme ça. Donc, comment on fait ça? Ben, il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'il faut être un jeune travailleur autonome qui fait un peu d'argent au début. On crée une société incorporée. On génère de l'actif. Même chose que le REER, un salarié qui met beaucoup de REER au début de carrière et pendant ses 20 premières années, ben, il profitera d'amortir plus tard à la retraite son revenu et de se déclarer un plus petit salaire annuel pour finalement payer moins d'impôts que s'il l'avait payé au moment où il a gagné.
Bien sûr. C'est l'objectif.
C'est l'objectif. Mais vas-y plus loin. La fiscalité va plus loin que ça. Paul, si tu crées une société Inc, puis que tu as des revenus de travail autonome, puis qu'une année, tu te dis, « Hey, moi, j'ai des enfants. Ils vont à la garderie. » Puis en plus, là, j'aimerais ça avoir de l'allocation canadienne pour enfants, mais mon revenu annuel est trop gros. Ben, tu te verses un petit salaire. Tu attends, tu empruntes de l'argent, et là, tu recevras de l'allocation canadienne pour enfants de Justin Trudeau non imposable, et tu te imposeras l'année suivante en te versant un plus gros salaire et remboursant tes dettes. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein comme ça. Le but, c'est vraiment ça. Écoutez les règles de la fiscalité. C'est comme un Monopoly. Tu lis les règles et ça dit, ne faites pas d'argent annuellement, mais cumulez des actifs
ben,
qui vous généreront de l'argent.
Mais c'est pas ça qu'il y a des gens... Oui, mais c'est pour ça, Pierre-Yves, qu'il y a des gens qui refusent des promotions en disant, je vais me retrouver là, fiscalement, avec l'augmentation et la promotion.
Il y a mais le coût-bénéfice. Mais ça vaut toujours la peine. Ça vaut toujours la peine de gagner plus d'argent parce que même s'il y a de l'impôt, on est toujours plus riche. Mais il y en a qui se disent, le coût marginal en effort, en temps personnel, il me tente pas pour la fiscalité nette. En plus, si vous avez des pensions à payer, ça augmente évidemment la pension à payer souvent quand vous avez
bien
plus
sûr,
de revenus.
Bien sûr.
Donc, tout ça fait en sorte qu'au bout du compte, vous vous dites, peut-être que ça vaut pas la peine. Donc, la stratégie dominante...
Gros actif.
Ouais. Donc, Paul, au-delà de dire, ah, faut pas dépenser pour épargner, mais qui plus est, ceux qui ont beaucoup d'épargne se font moins taxer. On met ça dans le CELI, on retarde ça. Donc,
ben oui.
Le REER, c'est un message qu'il faut lancer de dire, pensez-y, le gouvernement veut vous taxer en salaire annuel. Arrangez-vous pour avoir un petit salaire, puis des gros actifs. Puis comment on fait ça?
C'est ça.
C'est en épargnant quand on est jeune.
Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Yves. C'est beau.
Salut.